L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, merci d'être là. Votre rendez-vous dédié à la high-tech et à l'économie numérique chaque samedi 16h-18h. Tout à l'heure, nous retrouverons notre World Tour, direction la Nouvelle-Zélande. Et puis après, ce sera notre dossier de l'atelier US avec Pauline Kantner. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanette. Lila, on va parler aujourd'hui de bad buzz lorsque une entreprise trébuche, dérape sur le web, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux.
En termes d'image de marque, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et ça peut également avoir un impact, on le verra, potentiellement financier.
Et en plus.
Pour la marque.
Alors, il existe des pompiers.
Tout à fait.
Sur le web et sur les réseaux sociaux qui sont là pour éteindre les incendies.
Exactement. VisiBrain en fait partie. Samuel Coupé, vous êtes directeur technique de VisiBrain. Bonjour.
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 Alors, est-ce que vous pourriez rappeler assez rapidement en quoi consiste VisiBrain ?
Bien sûr. Alors, nous, VisiBrain, ce qu'on fait, c'est qu'on édite un logiciel qui permet de veiller ce qui se passe sur Twitter.
Que sur Twitter.
Je vais vous expliquer pourquoi. À l'heure actuelle, les entreprises, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, les entreprises sont plus exposées que jamais à la crise. Et elles ont un besoin, une nécessité absolue de s'équiper d'outils qui vont leur permettre de comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Oui, parce que ça peut être dramatique, hein. Je veux dire, un bad buzz, comme on le disait tout à l'heure, avec Lila qui débute comme ça, ça peut être catastrophique, Samuel.
Tout à fait. Ça va avoir un impact, ça va avoir un coût réel pour la marque, c'est-à-dire qu'un bad buzz.
En termes
d'image,
c'est toujours que.
Il y a deux coûts. Il y a un coût tangible, ça peut mener à un retrait de produit, à un retrait de campagne. Mm-hmm. Et il y a un coût beaucoup plus intangible au niveau de la réputation de la marque, au niveau de son image de marque. C'est quelque chose de très intangible, mais qui peut jouer sur le très long terme. Nous, ce qu'on permet de faire aux entreprises, du coup, c'est d'anticiper les risques connus. Donc, par exemple, si je suis McDonald's, je dois le savoir quand quelqu'un parle de ma marque en relation avec l'obésité sur Twitter, je dois être au courant. Je vais aussi pouvoir découvrir des nouveaux facteurs de risque. Et ça va me permettre, si vous voulez, de préparer la bonne réponse. C'est-à-dire qu'au moment où la crise va se déclencher, équipée d'un outil comme VisiBrain, la marque va pouvoir délivrer, au moment de la crise, le bon message aux bonnes personnes, au bon moment.
Mais alors, concrètement, avec quel outil est-ce que ça veut dire que je vais déclencher une veille préventive autour de différents mots-clés, comme vous l'aviez mentionné pour McDo, obésité, santé, malbouffe, hashtag malbouffe, etc. Non ?
Comment ça marche alors ? Hashtag calories ?
On détermine des facteurs de risque. Donc, par exemple, pour McDonald's, il y a tout ce qui est lié à la santé. Mm-hmm. Et le truc, c'est qu'en surveillant ces facteurs de risque, en voyant comment les gens en parlent, on connaît quels sont les sujets qui sont les plus importants. Mm-hmm. On sait comment les gens en parlent. Et à partir de là, on peut répondre aux inquiétudes des gens en utilisant leurs propres mots. On peut adapter vraiment le message au risque tel qu'il est ressenti, perçu par le public réel.
D'accord. Donc, on va être en temps réel averti. En fait, on aura des signaux faibles, en quelque sorte, de personnes qui vont dire du mal d'une marque ou réagir. Par exemple, alors là, vous avez cité McDo, mais évidemment, ça peut être dans tous les domaines.
Ça marche dans tous les domaines, tout à fait. Comme je vous disais, on se concentre sur Twitter pour faire ça, parce qu'en fait, c'est sur Twitter qu'on va trouver tous les détonateurs de la crise.
D'accord. C'est pas sur Facebook.
Pas vraiment sur Facebook. C'est pas sur Facebook que vous allez mettre en relation l'activiste
ouais.
et le journaliste.
Quand je suis pas content, ça va être plutôt sur Twitter.
C'est
que je
sur
vais
Twitter
le dire
qu'on
suite.
Va s'exprimer quand on n'est pas content. Ouais. C'est là, mais c'est surtout ça va jouer le rôle d'explosif parce qu'on y retrouve les journalistes, les politiques, les activistes. Et tout ça, ça crée un cocktail très détonnant et que c'est là où l'erreur de l'entreprise va se transformer en bad buzz.
Il y a eu de gros bad buzz en 2015.
Des très gros bad buzz en 2015, il y en a énormément.
Allez-y, alors, des bad buzz croustillants, Samuel, on vous écoute.
Écoutez, cette année, on a dénombré 109 bad buzz. Ça veut dire qu'il y en a...
109 ?
109. On a, pour compter ça, donc c'est une étude, on a fait l'étude avec un partenaire qui s'appelle Nicolas Vanderbist, qui est chercheur spécialiste des phénomènes d'influence. Et la définition qu'on s'est donnée du bad buzz, c'est qu'en gros, le bad buzz, c'est le mécontentement des publics vis-à-vis d'une organisation. Et c'est quand ce mécontentement, il atteint la sphère médiatique. Mm-hmm. Pour nous, là, les 109 dont on parle, on s'est concentré sur la sphère médiatique francophone. Si on allait au-delà de ça, il y en aurait sans doute beaucoup plus. Donc là, on s'intéresse vraiment aux bad buzz qui ont été traités par les médias français.
Oui, d'accord. Donc, ils sont déjà assez gros pour intéresser les journalistes, pour qu'ils répercutent l'information.
Tout à fait. 109, ça en fait quand même deux par semaine. Donc c'est vraiment c'est costaud,
beaucoup, ouais.
c'est fréquent, c'est quelque chose de très fréquent. Donc les gros bad buzz cette année, ceux qui nous ont marqué un peu, c'est par exemple cet été Tel Aviv sur Seine, là une opération organisée par la mairie de Paris,
ouais,
pour promouvoir un petit peu le tourisme et, mmh, et Israël, qui est quelque chose qui a été fortement critiqué par les communautés palestiniennes, par des activistes pro-palestiniens. Quelque chose qui a déclenché des vrais coups pour la mairie de Paris, vu qu'il a fallu déployer 500 policiers pour assurer, mmh, la sécurité de l'événement. Donc vraiment quelque chose qui a un impact réel. Au final, quand on regarde cet événement-là, on voit que c'est un ensemble d'activistes relativement peu nombreux qui ont réussi à faire exploser cette affaire, à la transformer, à lui faire atteindre une masse critique.
Et oui, pour que les médias après s'en emparent.
Tout à fait.
Et alors là,
le but du jeu étant de rallier l'opinion publique.
Bien sûr. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
D'autres bad buzz cette année. On a par exemple, ça c'est rigolo. On s'est rendu compte que le logo des Jeux Olympiques de Tokyo était un plagiat. C'est un graphiste belge qui voit le logo des Jeux Olympiques et qui se dit mais c'est moi qui l'ai fait celui-là.
C'est
très embêtant. Bon, au départ, on se dit c'est sans doute anecdotique, sans doute une erreur, ça ressemble. Sauf qu'en fait, quand on regarde les autres logos, les autres travaux faits par l'agence qui a réalisé le logo des JO, on se rend compte qu'il y a énormément de plagiat dedans. Du coup, encore une fois, un vrai impact, vu qu'il a fallu changer le logo des Jeux Olympiques, celui qui était prévu. Enfin, des choses qui sont très embêtantes aussi en termes d'image pour cet événement-là.
Et alors, pour l'agence, n'en parlons pas.
Ça,
c'est clair. Est-ce qu'il y a eu des marques aussi, plus traditionnelles, qui ont subi de plein fouet un bad buzz sur Twitter?
On a Lenovo, donc le fabricant d'ordinateurs, ouais, chinois, qui a été très exposé parce qu'il a distribué dans ses ordinateurs un logiciel espion. Dans les ordinateurs neufs vendus, un logiciel espion qui servait à remplacer les publicités qui s'affichaient dans les résultats Google. C'est-à-dire que vous faisiez votre recherche sur Google et que vos résultats étaient des publicités
qui étaient poussées par Lenovo. Enfin,
poussées par Lenovo.
Voilà,
si vous voulez, ils ont installé ce logiciel espion. Surtout les ordinateurs vendus. Sans
ça,
doute,
c'est pas bon, ça.
C'est pas bon. Et surtout, là où Lenovo a fait erreur, si vous voulez, c'est qu'il a beaucoup tardé à répondre à l'inquiétude des internautes. Il a attendu quelques jours, il a attendu qu'il y ait 220 000 tweets, donc quand même beaucoup de mécontents, des gens très inquiets de leur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on propose des résultats qui sont faux, pourquoi on installe des logiciels dont je veux pas sur mon ordinateur alors que je viens de le payer, je viens de l'acheter. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, tarder à répondre dans cette situation-là, c'est quelque chose de très dangereux pour Lenovo.
D'accord. Et là, après, c'est, on va dire, la war room, hein, c'est pour ces sociétés-là, il faut réagir, bien communiquer pour envoyer le bon message. C'est ça?
Bien sûr. En l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué des outils qui permettaient de retirer le logiciel en question. Mais, on sent bien l'importance d'une certaine préparation. À l'heure actuelle, la crise, elle peut frapper à peu près n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation. Et il faut être préparé à cette éventualité-là, notamment en connaissant quels sont les risques auxquels je suis exposé, en surveillant en permanence quels sont les nouveaux risques auxquels je peux être exposé demain, et en ayant les réponses adaptées. Il faut être prêt à délivrer le message qui saura rassurer le public, désamorcer la crise.
Mais est-ce que ça demande pas en entreprise d'avoir des gens dédiés? Alors fatalement les community managers, ok, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'un profil peut-être davantage de data scientist, de quelqu'un capable de prendre du recul sur la masse de données qui lui arrive?
Tout à fait. En général, c'est une tâche qui incombe beaucoup au département de communication des entreprises. Donc, pour ces tâches-là, dans une grosse entreprise, si on parle d'entités comme Lenovo, comme McDonald's, il faut que ce soit des analystes, des gens qui soient spécialistes à la fois de l'image de ces entreprises et des problématiques d'image, d'influence sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Le pire bad buzz qu'on a déjà vu sur Twitter, vous vous en souvenez ou pas? Un truc, mais ben voilà quoi, c'est, il faut faire exactement le contraire.
Le pire, Écoutez, moi, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire cette année, qui concerne pas forcément Twitter. C'est ce qui s'est passé suite au piratage de TV5. Après le piratage de TV5, il y a eu quelqu'un qui a été interrogé dans les locaux de TV5, une petite interview.
C'est incroyable.
Ils l'ont filmé. Oui, le piratage, c'est catastrophique et compagnie. Ouais. Et il se trouve que derrière lui est accroché ce message. Il est marqué le mot de passe de YouTube, c'est. Et le mieux, c'est le mot de passe étant le mot de passe de YouTube.
Voilà, c'est ça.
Et quand on vient d'être.
Ça, c'est presque caricatural, en fait.
C'est ça. C'est. Non,
mais
il faut
comme
pas.
Vous disiez,
il faut
c'est
pas
risible,
faire ça.
Quoi. C'est incroyable.
Il faut être préparé. Oui, c'est quand même un peu gros.
Alors, vous l'évoquiez plutôt les différents. Et quelles seraient les différentes réponses, la bonne réponse à un bad buzz? Est-ce qu'il faut répondre avec humour, ne pas tarder? Est-ce que au contraire,
faire profil bas
mieux, exactement.
Alors, il y a un truc qu'il faut pas faire. Il faut pas mentir. Nous, ce qu'on a remarqué cette année, c'est qu'en gros, la transparence, ce qui se passe autour de la transparence, c'est très important pour les entreprises. À l'heure actuelle, tout finit par se savoir. On a quelques exemples dans le livre blanc d'entreprises qui, si vous voulez, ont essayé de raconter l'histoire d'une autre manière. Tenez, on va prendre par exemple, vous vous rappelez des tweets des joueurs du PSG, où on a été déniché chez des joueurs du PSG, dans leur fil Twitter, on a été chercher des très vieux tweets où ils étaient très critiques envers le PSG, voire insultants, voire très agressifs. La première réponse du club, quand il s'est passé ça, c'est « nous avons été victimes d'un piratage ». Le problème, c'est qu'un piratage sur tant de personnes simultanées, c'est pas vraiment vraisemblable. Et ces choses-là,
ça pue le mensonge à des kilomètres, en fait.
On peut douter.
Voilà, c'est ça.
Le doute est permis. Toujours est-il que la transparence, elle est très importante. Donc, en tout cas, quand on est touché par la crise, il ne faut pas essayer de masquer la vérité. Il faut sans doute présenter les faits sous un jour plus avantageux que
la réalité.
Il faut adresser les craintes. Voilà. Il faut adresser les craintes du public.
Mot est important parce qu'en plus, il n'y a que 140 caractères sur Twitter. Donc,
tout à fait.
Ouais, il faut trouver les bons mots. Voilà pour le bad buzz. Passionnant ça, hein,
oui.
Comme sujet. Bon, il y a déjà des bad buzz en 2016 ou pas qui se profilent à l'horizon ou c'est plutôt calme.
Des good bad buzz. Je me posais la question, le good bad buzz.
Il y a quelque chose qui nous intéresse en ce moment, c'est que suite à l'affaire Volkswagen, par exemple, c'est Renault qui doit forcément commencer à s'inquiéter de quelles peuvent être les retombées chez eux suite à ces affaires-là.
Bon, le problème, c'est que comme pour l'instant on n'y comprend pas grand-chose, on peut pas trop bad buzzer quoi. Mais le jour où on comprendra ce qui se passe, là c'est sûr. Merci beaucoup Samuel.
Merci à vous.
Merci.
Samuel Coupé donc CTO de VisiBrain. Lila, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre World Tour et puis notre dossier de l'atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, ça sera notre dossier de l'atelier US. Avec Pauline Cantner et son invité. Puis juste après, direction la rédaction de zeronet.com. Bien évidemment, comme chaque samedi. Mais dans l'immédiat, notre World Tour. Tiens, avec Aurore Géraud, on va aller dans un pays qu'on découvre rarement dans cet atelier numérique.
Oui.
C'est la Nouvelle-Zélande cette semaine.
Oui, on est avec Svenja Busson qu'on avait eue il y a un moment, qui est donc cofondatrice du EdTech World Tour. Svenja, bonjour.
Bonjour Svenja.
Bonjour.
Alors, on avait eu Audrey, qui est donc ta compagnonne de tour du monde des nouvelles tech et de l'éducation. On l'avait eu sur San Francisco. Vous avez fait les US, vous avez fait le Chili. Et là, vous êtes en Nouvelle-Zélande. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut avoir un petit peu un descriptif des particularités de l'écosystème EdTech en Nouvelle-Zélande?
Bien sûr. Alors, c'est très intéressant la Nouvelle-Zélande parce que avec son système éducatif combiné avec sa culture poussée d'innovation et d'entrepreneuriat, la Nouvelle-Zélande c'est un terrain idéal pour la création d'un écosystème ambitieux autour des EdTech, des technologies d'éducation. Donc nous, on est arrivé en Nouvelle-Zélande en passant par l'Amérique latine. Et en Amérique latine, on a vu un déploiement massif de hardware, de matériel informatique, type tablette, ordinateur portable, mais qui était un échec total. Parce qu'il y avait certaines conditions préalables qui n'étaient pas réunies et qui ont fait en fait qu'il n'y avait ni le contenu sur ces appareils, ni la formation des profs, ce qui est super important. Et en Nouvelle-Zélande, ce qu'on voit, c'est que l'implémentation de technologies appuyant l'apprentissage en classe est fructueuse. Pourquoi ? Parce que les conditions sont remplies ici. C'est-à-dire que d'abord, l'infrastructure est présente. Le gouvernement néo-zélandais finance et organise l'installation d'Internet au débit sans fil dans toutes les écoles du pays. Ensuite, les profs sont formés. Ça, c'est le plus important pour nous. L'innovation doit être initiée et conduite par l'enseignant et non imposée en top-down par un ministère ou un proviseur. Et donc, en Nouvelle-Zélande, on a MindLab, qui est un organisme de formation privée en très forte croissance, qui forme les profs néo-zélandais aux technologies telles que la modélisation 3D, la robotique, la programmation, afin de les initier à ces nouvelles pratiques qui feront partie du futur professionnel de leurs élèves.
Donc, en fait, les bases sont vraiment posées dès le départ et pas, on part pas vite fait en déposant toutes les technologies qui nous viennent à l'esprit. On est vraiment dans quelque chose de réfléchi.
Exactement. Et ça fait toute la différence par rapport au programme comme One Laptop Per Child qu'on voit en Amérique latine et qui sont des échecs totaux, quoi. Ce qui est intéressant en Nouvelle-Zélande, c'est que les entrepreneurs qui se lancent dans la création de start-up et tech, comme dans la création de start-up dans tous les autres secteurs, ils ne ciblent pas leur marché. C'est-à-dire que quand ils entreprennent, ils savent déjà qu'ils vont exporter. Parce que le marché néo-zélandais est tellement petit, c'est 4,5 millions d'habitants, qu'ils se tournent tout de suite vers des marchés plus grands, comme l'Asie du Sud-Est, par exemple, surtout dans l'éducation, parce que le marché là-bas est très grand.
Donc, Asie du Sud-Est, est-ce qu'il n'y a pas de souci d'un point de vue culturel ? Est-ce que on peut penser que l'entrepreneuriat néo-zélandais ne s'adapte pas nécessairement à la culture chinoise ?
Par exemple, oui, c'est une bonne question. En fait, pas forcément. En fait, les entreprises néo-zélandaises et australiennes qui entreprennent dans l'éducation, pour la majorité d'entre elles, elles ont des partenaires locaux, en fait, qui les aident à déployer leurs produits sur place. Et il y a uniquement l'effort de traduction à faire, ça c'est sûr. Mais souvent, ils n'en ont même pas besoin parce qu'ils se concentrent plus sur des supports de logiciels type LMS, les Learning Management Systems, ou soit sur un développement de compétences très précis. Et souvent, ils entreprennent sur le marché de l'enseignement supérieur ou du lifelong learning ou du corporate learning. Et par exemple, en Chine ou en Corée, il y a une très forte demande de profs d'anglais. Et donc, il y a des startups comme LearnCo, une startup néo-zélandaise qui propose des cours d'anglais via vidéoconférence. C'est facile, il y a peu de décalage horaire. Et les étudiants chinois peuvent apprendre l'anglais avec un natif du pays avant d'aller faire un semestre d'échange ou d'aller étudier dans le pays, en fait. Donc, enfin, le marché de l'enseignement supérieur chinois, par exemple, est bien plus attractif que n'importe quel autre marché, avec plus de 30 millions d'étudiants. Et donc ça attire énormément en fait les entreprises néo-zélandaises et australiennes.
Est-ce que tu aurais un exemple d'une start-up que vous avez repéré pendant votre périple en Nouvelle-Zélande ?
Alors, il y a LearnCo, L-E-A-R-N-K-O, il y a également MindLab, dont je viens de parler, qui est une start-up aussi, mais qui fait de la formation. Voilà, on a vu Education Perfect qui fait du training pour les tests en fait d'anglais également. On a vu Appara qui est aussi un software de visible learning pour les professeurs. Et tout ça, c'est des startups qui se sont exportées parce que elles peuvent pas. À part MindLab qui forme des profs néo-zélandais pour l'instant uniquement, elles se sont toutes exportées et à succès.
Merci beaucoup, Svenja.
Merci, Svenja.
Mais de rien. Avec grand plaisir. Merci à vous.
Voilà, petite carte postale high-tech depuis la Nouvelle-Zélande. Et tout de suite, on enchaîne avec notre dossier de l'atelier US avec vous, Pauline Cantner, depuis l'atelier US.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Marc Rougier, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui au micro de l'atelier. Vous êtes le président de Scoop.it, donc la solution de content marketing. Vous avez derrière vous 28 ans d'entrepreneuriat, fondé 4 startups et vous siégez au board où vous êtes advisor, mentor auprès d'une douzaine d'autres startups. Vous avez aussi fait un passage dans des grands groupes qui nous amène aujourd'hui à vous interroger. Tout d'abord, première question, à l'origine, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer Scoop.it ? Quelle était la visée du projet ?
En 2010, donc, l'humanité est arrivée à un point d'inflexion intéressante concernant l'information. C'est qu'elle s'est mise à créer plus d'informations tous les ans qu'elle en avait créé depuis l'invention de l'écriture il y a 5500 ans. Donc ça crée un nouveau problème qui est de comment trier, comment donner du sens à cette information. Et en gros, il y a deux personnes qui ont répondu à ce problème. C'est Facebook et Google. Aujourd'hui, presque tout ce qu'on consomme comme information, c'est soit Facebook, soit Google qui nous dit de le consommer. Nous, on s'est dit, il faut trouver une alternative à ça ou un complément à ça. On s'est dit, ça serait bien si on aidait les gens qui ont une expertise ou une passion pour des domaines bien précis, les aider à découvrir du contenu, à enrichir ce contenu, à le mettre en scène et à le rediffuser auprès d'une audience qualifiée. Donc ça s'appelait la curation. Ça vient de Museum Curator, un mot anglais. Et le curator, c'est cette personne qui trouve les meilleures pièces, qui les met en scène, qui les met en perspective et qui les remet à disposition d'une audience.
Et depuis 2011, il y a eu beaucoup de changements quand même dans ce partage de données, de contenu, de veille. Et qu'est-ce que ça a eu pour vous comme impact sur votre entreprise ?
Oui, alors on a lancé tout ça en 2011. C'est parti très très vite. On a rencontré un chouette succès. On est arrivé jusqu'à 7 millions de visiteurs qui venaient tous les mois consommer et découvrir du contenu sur la plateforme. Et puis là, il a fallu qu'on transforme tout ça en un business model, c'est-à-dire faire des revenus, valoriser cette idée qu'on avait. Et on a découvert que les entreprises, les marques, avaient ce besoin de devenir des passeurs ou des publicateurs, des publieurs de contenu. Les marques doivent devenir des médias pour être connues sur Internet. Si vous voulez que votre site soit vu, si vous voulez bâtir votre réputation, si vous voulez être connu, bah, il faut publier du contenu de façon régulière sur les médias sociaux, sur votre site, sur votre blog. Ça s'appelle le marketing de contenu. Et notre plateforme, c'est un excellent outil. Donc, c'est une solution pour aider les entreprises à découvrir du contenu, à l'enrichir, à l'éditer et à le publier pour augmenter leur visibilité, leur réputation.
Et aujourd'hui, quel est le rapport de l'entreprise moyenne à ce contenu, à cette information ?
Alors ça, c'est une question qui est super intéressante, qui est anthropologiquement intéressante. C'est que pendant très longtemps, les entreprises ont tenté de contrôler l'information. Quand elle communiquait à l'extérieur, c'était de la publicité, autrement dit de la propagande. On disait, je suis le meilleur, je suis plus très beau, venez voir moi. Puis quand elle publiait à l'intérieur, donc la connaissance à l'intérieur de l'entreprise, c'était également une connaissance contrôlée. Aujourd'hui, le web a fait exploser tout ça. Aujourd'hui, votre audience, vos clients, ils vont pas simplement lire ce que vous publiez. Ils vont regarder ailleurs. Ils vont découvrir. Ils vont lire sur vous. Et pareil, à l'intérieur d'une entreprise, on peut pas mettre un mur comme ça, étanche. Non, tout le monde va lire de l'information sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Donc, l'entreprise, maintenant, a un nouveau défi qui est de, bien évidemment, contrôler sa ligne éditoriale, donner son opinion, faire entendre sa voix, mais le faire dans un monde ouvert où à la fois nos clients, nos communautés, notre audience, mais aussi nos employés, nos collaborateurs, nos partenaires ont accès à de l'information. Donc l'entreprise doit maintenant définir une ligne éditoriale, organiser l'information qui va être lue, donner son opinion sur cette information, mais ne peut plus prétendre contrôler 100% de ce qui va être lu, soit par son audience, soit par ses employés.
Pour revenir à votre équipe, vous avez une équipe de développeurs qui est basée en France et vous avez votre équipe, donc vous-même, votre CEO, votre équipe marketing et sales qui sont basés à San Francisco. Alors pourquoi ce choix et aussi qu'est-ce que ça vous apporte d'être basé dans la vallée en tant que président de Scoop.it?
Alors, j'ai pas une équipe en France, j'ai la meilleure équipe du monde en France que je tiens à saluer. Aujourd'hui, oui, on a une excellente équipe de développement d'ingénieurs à Toulouse. Donc, c'est un modèle que les Américains aiment bien appeler le modèle israélien qui consiste à avoir une R&D très forte quelque part et faire du business, en fait, aux États-Unis. Parce qu'aux US, le business est un petit peu plus développé. C'est un marché qui est plus grand dans plusieurs secteurs. C'est un marché qui est plus mûr aussi, donc plus facile d'accès, où les gens ont aussi ce qu'on appelle un tempérament de early adopter. Ils vont plus facilement prendre des risques à tester des nouvelles solutions. Donc, c'est très intéressant pour une entreprise, pour une start-up, d'avoir de la R&D en France où les ingénieurs sont excellents, sont aussi beaucoup plus fidèles qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, la main-d'œuvre est très volatile. Donc, on a vraiment la meilleure recherche au monde. Mais il y a certains domaines business pour lesquels les États-Unis sont plus mûrs, plus avancés. Donc, nous, et moi, c'est la troisième fois dans ma vie que je développe ce modèle, avoir une équipe en France. En l'occurrence, celle-ci, c'est la meilleure du monde. Et puis, d'avoir une équipe sales and marketing, donc qui fait de la vente, qui fait du marketing, qui va capturer le marché à partir des US où il y a effectivement une plus grande dynamique. Aujourd'hui, Scoop.it, c'est davantage de personnes en France qu'aux US. L'essentiel de notre équipe est toujours à Toulouse, mais on fait plus de revenus aux US qu'en France.
Merci beaucoup Marc Rougier pour cet échange. Pour rappel, vous êtes le président de Scoop.it.
Merci Pauline. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec le décryptage de Guillaume de Groas et puis notre rendez-vous depuis la rédaction de Zeronet.com avec Eric Le Bourlou. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Le crash test d'Antoine. On retrouvera aussi Guillaume de Groisse tout à l'heure pour parler des transports dans cet atelier. Mais auparavant, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve comme chaque samedi Eric Le Bourlou de la rédaction de Zéronet.com. Bonjour Eric.
Bonjour.
Eric, rédacteur en chef donc de Zéronet.com, premier site d'actualité high-tech en France. Et on va commencer, Eric, par les dessous, les transactions entre deux géants de l'électronique, du web. D'un côté Google, d'un côté Apple. Ce sont des concurrents, mais malgré tout parfois... voilà, ces grandes marques discutent et s'échangent des chèques assez impressionnants.
Exactement, des chèques d'un milliard de dollars par exemple.
Ouais. Voilà. Ce qui, bon, finalement, à l'échelle de Google ou
effectivement
pour ou Apple n'est pas énorme, mais c'est quand même
pour Google ou Apple c'est pas énorme, mais c'est quand même une grosse somme. Pourquoi ils s'échangent des chèques comme ça? Bah en fait, pour avoir, en fait, c'est surtout Google qui a donné 1 milliard de dollars à Apple. Qui est au passage un de ses plus grands concurrents, hein, puisque on rappelle qu'ils ont deux systèmes d'exploitation concurrents, Android et iOS, qui se battent et se battent sur le front du mobile avec beaucoup d'acharnement.
Et ils ont deux navigateurs concurrents.
Et ils ont tout à fait
Safari
et Google Chrome
et Google Chrome.
Et de l'autre côté. Et pourquoi Google donne 1 milliard de dollars comme ça à Apple? Pour rester, pour demeurer le moteur de recherche par défaut de l'iPhone. Quand vous faites une recherche sur Safari, justement, sur iPhone, sur Internet, vous utilisez via le champ de recherche Google et non Bing ou Yahoo, etc. Ça.
Alors on peut changer, hein.
On peut changer. Et effectivement,
vous
Apple,
avez plus de choix.
Voilà, depuis iOS 9, je crois, Apple propose davantage de moteurs de recherche, dont par exemple DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui ne vous trace pas, par exemple, contrairement à Google. Mais Google, voilà, tous les gens qui utilisent les iPhones, bah, évidemment, ça l'intéresse beaucoup, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Et bien voilà, discrètement, alors ça, évidemment, ces deux entreprises préféraient ne pas que ça se sache, mais ça s'est su via le procès qui aujourd'hui oppose Google à Oracle. Hein. On sait que Google a beaucoup d'ennuis avec Oracle parce qu'il aurait piqué à Oracle des parties de son Java. Eh bien, on a su la teneur de ce contrat. C'est intéressant parce que Apple n'est complètement opposé à Google sur son business model. Apple vend des téléphones et Google vend des données, vend nos données personnelles aux annonceurs. Apple a toujours dit que ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Oui. Et pourtant, ça n'empêche pas Apple.
Il crache pas sur la soupe, on va dire.
Il ne crache pas sur le milliard de dollars que Google veut bien lui donner pour rester son moteur de recherche et donc participer au traçage des utilisateurs d'iPhone, puisque quand on utilise Google et qu'on utilise un iPhone, vous avez par exemple tout de suite, on vous propose de partager votre position, vous pouvez vous loguer pour ensuite vous être traqué, on va dire, par Google, et ça ne semble pas trop poser de problème à Apple. Donc effectivement, c'est un petit peu bizarre de voir que cette entreprise Apple qui dit ne pas jouer avec nos données personnelles continue en douce. Voilà, on se doutait évidemment qu'il y avait un deal financier entre Google et Apple à ce niveau du moteur de recherche, mais on ne savait pas qu'il était aussi important et que voilà, c'est assez surprenant de découvrir. Et on verra bien si Apple peut-être va changer de position du coup, parce que c'est vrai que ça les mène quand même dans une position assez bizarre.
On peut imaginer demain que si notre moteur de recherche par défaut change sur Safari sur iPhone, c'est que Microsoft, par exemple, aura donné plus d'un milliard
exactement.
De dollars.
Alors, oui, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'ailleurs, Microsoft aussi est partenaire d'Apple sur le moteur de recherche, mais sur un autre moteur de recherche qui est intégré à l'iPhone. C'est celui de Spotlight. Quand vous faites une recherche dans Spotlight, c'est Bing, cette fois-ci, qui est utilisé. Et là encore, sans doute qu'il y a un gros contrat juteux à la clé.
Voilà, on parle d'Apple, on parle d'iPhone, on va parler justement des rumeurs concernant le nouvel iPhone. Alors c'est pas pour tout de suite, mais vous le savez, chaque année c'est à peu près la même chose, hein. Juste après voilà les fêtes, on commence à avoir des rumeurs de plus en plus persistantes concernant le nouvel iPhone qui sort en septembre prochain.
Ouais.
Et là, ça, évidemment, ça se poursuit.
Exactement. Hein, on en parlait déjà, le fait qu'il y avait sans doute la disparition de la prise casque sur l'iPhone. Là, ce serait une autre rumeur qui est sortie en fait par l'analyse du code du programme iOS. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est amusé à aller chercher au tréfonds du système d'exploitation d'Apple dont on parlait à l'instant, pour voir un petit peu ce qu'il pouvait y découvrir. Et ce qu'il a découvert, c'est que il y a une référence à une technologie qui s'appelle le LiFi. c'est écrit texto Li-Fi Capability, qui n'est
donc
pas encore
clair.
Activé, voilà. mais le Li-Fi, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de se connecter à Internet via la lumière. Donc en fait, c'est pour l'instant une technologie qui est encore
embryonnaire,
mais qui fonctionne. Hein. Oui. Il y a déjà des tests qui sont faits un peu partout, notamment.
Alors il faut changer la lumière, il faut mettre une connexion Internet. Enfin voilà, c'est pas.
Mais c'est assez révolutionnaire puisque du coup il n'y a plus d'ondes. En fait, c'est la lumière qui part, le spectre en fait lumineux, pardon, quelque chose qui est invisible, communique avec votre smartphone de façon optique.
Et dès qu'on sort de la lumière, ça marche plus.
Ça marche plus.
Voilà, évidemment. C'est ça.
Donc c'est un peu moins intéressant que le Wi-Fi, par exemple, pour ce genre de situation. Et par contre, ça peut être beaucoup plus rapide. Et surtout, il n'y a pas d'ondes, donc ça peut aussi être intéressant pour les gens qui sont un petit peu électrosensibles. Alors, ce qui est surprenant, c'est de voir qu'Apple intégrerait ça dans l'iPhone, puisqu'on sait qu'Apple, c'est pas vraiment sa tradition. Apple ne s'amuse pas à mettre des choses assez expérimentales comme ça, qui ne sont pas encore normées. Voilà, dans leur téléphone, ils préfèrent jouer, miser la sûreté. On a vu par exemple qu'ils ont beaucoup attendu avant d'intégrer certaines technologies. Il n'y a pas encore par exemple d'induction de recherche par induction sur l'iPhone. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas le cas. Donc il est vraiment étonnant de voir que de retrouver ce petit bout de code dans iOS. Alors ça, il y a peut-être d'autres explications. Ça peut être simplement un test, hein. Peut-être qu'ils testent ça, puis ils ont oublié de l'enlever. Puis ils ont des protos aussi chez Apple et ils testent beaucoup de choses, hein, dans leur labo secret. Ça peut être aussi, ça peut signifier quelque chose d'autre qui nous aurait échappé en interne. Et voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais c'est assez intéressant de voir qu'en tout cas, on trouve des petites choses secrètes comme ça dans le code d'iOS.
Oui, mais sans doute que l'iPhone 7 n'aura pas cette technologie.
En tout cas, ça paraît très clair que l'iPhone 7 ne l'aura pas. Si c'est le cas, ce serait pour des modèles.
Plus tard.
Voilà, qui paraîtront plus tard.
On va parler maintenant de la DARPA qui, en fait, travaillerait, Eric, sur un projet étonnant, un projet d'interface entre le cerveau et la machine. Alors, on a déjà vu ça. Mais là, on irait plus loin.
Oui, ça irait beaucoup plus loin. Alors, la DARPA, on le rappelle, c'est l'agence de R&D de l'armée américaine. Hein. La DARPA, c'est une agence de recherche qui a la base d'énormément de choses, dont au passage Internet. Hein, Internet à la base, c'est ARPANET. Et effectivement, la DARPA travaille sur des projets toujours un peu fous. On sait qu'ils organisent, par exemple, une course de robots autonomes. Ils ont beaucoup bossé sur la voiture autonome. Et là, ils travaillent maintenant. C'est un projet qui a été annoncé officiellement sur une interface entre effectivement le cerveau et un ordinateur. Effectivement, ça existe déjà. Il y a des gens handicapés par exemple qui s'en servent.
Des tétraplégiques par exemple.
Pouvoir quand même communiquer avec le monde extérieur. Là, la différence, c'est que dans leur projet, qui serait assez révolutionnaire et compliqué à mettre en œuvre quand même, il s'agirait de connecter un nombre de neurones bien plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on parle d'un facteur 100, hein, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et de connecter chaque neurone comme ça, individuellement, à l'ordinateur. Alors, ça semble un petit peu science-fictionnesque, on va dire, mais c'est imaginable. Et en fait, en général, la DARPA se donne les moyens de ses ambitions. Et on sait qu'ils ont beaucoup de fonds pour financer, non seulement pour l'armée, mais ensuite tous ces projets se répandent dans la société et on voit ce que ça donne.
Arrive dans le grand public
plus tard.
Bon, souvent ils gardent pas mal de temps tout ça pour l'armée, hein.
C'est vrai, mais en tout cas on pourrait imaginer avec un tel projet avoir une interface à haut débit, à grosse bande passante entre notre cerveau et une machine plus tard, dans l'avenir, on ne sait sous combien de temps. Ce qui pourrait, par exemple, nous permettre d'interagir très facilement avec un ordinateur, rien que par la pensée. Alors voilà, on peut rêver maintenant ou cauchemarder à ce que ça pourrait amener.
Oui, parce que c'est vrai, autant ça peut faire rêver, on peut imaginer que ça peut avoir des débouchés incroyables pour des handicapés, mais voilà, ça peut aussi...
Oui, on peut voir dans les deux sens, hein, voilà, effectivement, on peut s'en méfier.
Donner des projets un peu étonnants. On va parler maintenant d'un navigateur Internet, alors qui n'est pas encore sorti, mais qui a l'air très prometteur et qu'il va falloir peut-être surveiller.
Il va falloir le surveiller parce que ce navigateur Internet a été lancé par... c'est pas n'importe qui, c'est l'inventeur du langage JavaScript et c'est un ancien de la fondation Mozilla qui crée notamment le navigateur Firefox. C'est quoi? Il s'appelle Brave. Alors pour l'instant, on vous conseille pas de l'installer si vous êtes pas un geek, si vous connaissez assez mal l'informatique, c'est pas évident pour l'instant à installer. On l'a essayé par contre nous à 01net et c'est un navigateur très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il serait beaucoup plus rapide que les navigateurs qui existent aujourd'hui. de l'ordre de 40%.
Ce qui n'est pas négligeable.
Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Il est basé sur Chromium, qui est la version open source de Chrome. Mais surtout, il propose un business model différent pour Internet. On sait que les sites aujourd'hui fonctionnent grâce à la publicité, que beaucoup de gens bloquent ces publicités via notamment AdBlock Plus, hein, qui est un bloqueur de pub très connu. Et ça pose un problème à la fois aux éditeurs qui ont du mal à créer des business models autour des sites.
Oui, parce que si les pubs ne s'affichent plus, ça fait de l'argent en moins pour les éditeurs qui, malgré tout, il leur faut des moyens pour créer cette information.
Tout à fait. Donc, ce que propose en fait le créateur de Brave, c'est de bloquer les pubs. On reste dans le blocage de pubs, mais de proposer aux internautes, quand le site leur convient, quand leur site l'intéresse, de laisser passer des publicités, de nouvelles publicités, qui seraient gérées elles-mêmes par son équipe. Donc c'est là où
par le navigateur.
Par le navigateur. Et donc qui seraient affichées si l'internaute accepte, parce qu'il apprécie ce site, de voir ses publicités. Alors c'est assez nouveau. Évidemment, cet argent, l'argent qui serait généré par les internautes qui verraient ces publicités, serait reversé pour une bonne partie à l'éditeur du site. Donc pourquoi pas?
C'est
une nouvelle idée. Alors c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Google a déjà fait un test en ce sens. Il propose de payer. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais il vous propose de payer les sites que vous aimez bien. Alors c'est pas accessible à tout le monde, loin de là. Mais faire disparaître ces pubs pour vous préférez ne plus avoir de pub pour payer. C'est tout petit, hein, c'est 1 euro, même pas 1 euro. Mais voilà, ça peut suffire pour à grande échelle à financer un site. Et Brave, en tout cas, un navigateur qui essaye de changer un petit peu le business model du web, qui est très problématique pour de nombreux éditeurs.
Et on arrive peut-être à la fin d'un cycle, hein, avec toutes ces publicités, toutes ces pop-up qui arrivent et qui pollue parfois la navigation, surtout quand on est sur des mobiles, hein, où on se retrouve avec plein de pop-up, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Et de plus en plus de gens installent des bloqueurs de pub, et donc il y a moins en moins d'argent qui rentre.
Évidemment.
C'est un peu un cercle vicieux.
Exactement, un cercle vicieux. Merci beaucoup Eric Le Bourgeois.
Merci.
Rédacteur en chef du site 01net.com. Eric, chaque samedi, vous le savez, dans l'atelier numérique sur BFM Business. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on va terminer avec le crash test d'Antoine, et puis on va parler des transports. Pourquoi les transports aujourd'hui se décide en partie du côté de Palo Alto et de la Silicon Valley. On va en parler dans un instant avec Guillaume de Grosse. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre crash test. Mais auparavant, on retrouve l'une des figures de l'atelier numérique. C'est Guillaume de Grosse qui est avec nous. Salut Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Guillaume, cette semaine vous nous proposez votre décryptage et on va parler des transports cette semaine.
Alors effectivement François, on va parler des transports. J'avais envie de vous parler des transports parce que vous l'avez sans doute vu que vous étiez en plus en Californie il y a très peu de temps.
Ouais.
Les premiers tubes de l'Hyperloop de Elon Musk sont arrivés dans le Nevada.
Ouais, et là c'est vraiment du concret là, ça y est, hein, on y est.
Voilà, c'est du concret. Ils vont commencer les tests avec une première rampe qui fera 1 kilomètre, ils vont tester un truc à 500 km/h et puis ils vont incrémenter comme ils savent si bien faire dans la Silicon Valley. Donc, ce qui est amusant avec cette histoire d'Hyperloop, c'est que finalement le transport, ça a pendant très longtemps été un sujet d'infrastructure, hein. C'est les ponts, les routes, le chemin de fer, etc. Et puis tout ça était devenu un peu dépassé, hein, avec la révolution technologique et l'infrastructure de la révolution technologique, c'était pas les ponts ou les routes, c'était le cloud, les GPS, le réseau, etc. Et donc Elon Musk, le super disrupteur, revient avec un projet Hyperloop qui va reconstruire des infrastructures. Donc ça c'est assez intéressant, je trouve, comme point d'introduction sur le transport.
D'autant Guillaume que toutes ces infrastructures sont saturées, on le voit aujourd'hui à Paris, hein.
Ah bah, je pense qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui que toutes ces anciennes infrastructures traditionnelles sont saturées, que le mode monomodal est plus du tout efficace. Donc, est-ce que créer une nouvelle infrastructure, ça va résoudre le problème? Ça, je sais pas, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est amusant là-dedans, c'est de voir que la Silicon Valley, le monde des startups, de la disruption, s'intéresse à ce sujet du transport, alors que bon, effectivement, hein, le digital, c'est l'immatériel, etc. Et puis là, on les retrouve finalement dans des capteurs avec l'Internet of Things, on les retrouve dans les trains, on les retrouve dans les avions, et puis on les retrouve dans nos smartphones, donc dans nos voitures, et d'un seul coup, finalement, la Silicon Valley arrive à s'intéresser à ce sujet du transport. Et là, qu'est-ce qu'on voit ?
Oui. Non, mais on se rend compte en fait que, évidemment, c'est pas simplement pour rendre le monde meilleur, c'est qu'il y a évidemment un aspect business aussi derrière tout ça.
Non, il y a bien entendu un aspect business, sinon ce serait pas la Silicon Valley, ce serait une ONG. Donc l'aspect business, il est très clair. Et là, on voit vraiment effectivement deux mondes qui s'affrontent. Le monde Google, c'est le monde de la pub. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Google c'est de dire, puisque le monde automobile va pas assez vite pour que les gens qui sont dans leur voiture, je puisse leur servir de la pub, parce que finalement, hein, Google a accepté que globalement, quand on travaille, il doit pas nous envoyer trop de pubs, et quand on dort, c'est encore un peu compliqué, donc il lui restait un peu de temps, qui était le temps qu'on passait derrière son volant, donc Google dit, j'enlève le chauffeur, tu n'as plus besoin de conduire, donc je peux te servir de la pub. Et de l'autre côté, ce que dit Elon Musk, c'est finalement, avec cette même logique, qui est le temps que tu passes à conduire, je peux pas te toucher pour effectivement envoyer de la pub, pour utiliser ton temps de cerveau disponible. Donc, je vais massivement réduire ton temps de transport. Et au lieu de mettre 1h30 d'avion pour faire San Francisco-Los Angeles, avec Hyperloop, on nous promet de ne mettre plus que 30 minutes.
Ouais, c'est quand même incroyable. Hein. 30 minutes pour faire ce qu'on met en avion pendant 1h30.
Ouais, exactement. Et donc finalement, bien entendu que ça va améliorer le monde si on veut, hein, parce que se déplacer plus vite, c'est quand même appréciable. Mais l'objectif derrière, c'est un objectif de business. Alors, petit clin d'œil, ce qui est amusant, c'est que toute cette technologie, tous ces capteurs, tout ce web, etc., c'est aussi ce qui permet à des services comme Blablacar, comme Vélib ou Autolib d'exister. Et finalement, c'est pas si mal que ça.
Merci beaucoup Guillaume de Groisse pour cette vision des transports et on enchaîne tout de suite avec le crash test d'Antoine Cyr.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Antoine, est-ce que vous êtes prêt ?
Oui.
Le point de départ de ce crash test, c'est vous qui l'avez choisi, hein ?
Ah oui.
C'est Marie Noni.
Eh oui, Marie Noni. Il fut un temps où les Marie Noni faisaient rêver.
Ah ! Donc il y en a eu plusieurs.
Ah oui, il y en a eu plusieurs des Marie Noni.
Ah.
Alors c'est pas Marie Noni.
C'est pas Marine Oni.
Et
non
c'est
plus.
Pas non plus Marine Oni. Elle n'a pas de raison d'être non. Oni, Marine.
Mais non, la voilà. Pauvre.
Et non. Ce sont les Marine Oni. Les Marine Oni.
C'est des petites pattes, c'est ça?
Et pas du tout.
Pas du tout. Non.
C'était d'énormes rotatives.
D'énormes rotatives?
Et oui. Témoin d'une époque qui commence un peu à s'éloigner, celle où le papier était roi, celle où l'information circulait par les journaux, les oui. porteurs de journaux, les crieurs de journaux.
L'encre était là.
L'encre était, voilà, alors elle est toujours là un petit peu,
oui,
faut pas non
attendez,
plus.
Attendez, oui.
Voilà, hein, faut pas, voilà. Mais quand même, il y avait, autrefois, il y avait ce qu'on peut appeler une espèce de majesté de la rotative,
ah oui.
une espèce de pouvoir de la rotative. La rotative, c'était, si vous voulez, la rotative était au XXe siècle ce qu'au XXIe sont les serveurs.
Exactement.
C'est-à-dire que
oui,
la,
oui.
La machine mère
oui.
qui permettait à la
l'information à l'information se créer des, hein,
exactement,
à cet endroit-là.
Exactement. Et donc, il y avait les rotatives. Et au fond, la rotative, elle est quand même en train de perdre cette espèce d'empire qu'elle avait sur le monde.
Elle tourne un peu moins rond.
Et donc, c'est intéressant de voir, justement, quelle est la trace laissée sur la toile par Marie Noni. Car Marie Noni, maintenant, vous l'avez compris, ce fut le pape de la rotative. Et pendant des années, une Marie Noni était à la rotative ce que le frigidaire était au réfrigérateur.
Ah oui, c'est le top du top.
Absolument. Alors, peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas ce qu'est une rotative. Donc, pour eux, nous allons maintenir le suspense encore quelques instants. Donc, Hippolyte Marie Noni était né en 1823 à Paris. Il était d'origine italienne, comme peut le laisser supposer son nom. Mais enfin, quand même, son père, Ange Joseph Marinoni avait été dragon des armées napoléoniennes, donc c'était quand même une famille installée en France depuis longtemps. Et donc le petit Hippolyte Auguste Marinoni avait commencé au bas de l'échelle comme apprenti, et puis petit à petit il s'est mis à inventer des machines. Alors d'abord il a inventé une machine à décortiquer le riz et le coton, et puis d'un seul coup il est arrivé chez un fabricant de machines typographiques qui s'appelait Pierre-Alexandre Gaveau, et là il fabrique sa première presse à deux cylindres, la presse dite à réaction.
Oula.
Voilà, et pour cause, elle imprime quand même 1500 feuilles à l'heure, ce qui à l'époque était tout à fait évidemment considérable. Donc ensuite, Marinoni s'est mis petit à petit à créer des machines, de plus en plus de machines à impression, et donc en 1886, il dépose le brevet de la presse rotative à plieuse, qui est donc l'ancêtre de la rotative. Voilà. Puis ensuite, il va continuer à développer ses machines. Il va prendre la tête du petit journal. Il va devenir lui-même patron de presse, et donc la Marinoni va devenir vraiment le synonyme de la rotative. Alors, il a aussi aidé Étienne Lenoir, qui est un des ancêtres de l'automobile. Donc, à un moment, c'est devenu quelqu'un de vraiment très très puissant. Alors, dans quelle trace a laissé Marinoni? Quand on tape Marinoni sur Internet, on trouve vraiment des sites, mais des sites assez spécialisés, notamment le site du musée de l'imprimerie, et puis des petites notes historiques, par exemple une note historique qui nous raconte qu'il y a une année où d'un seul coup le progrès technique, la rotative Marinoni, va arriver dans tous les journaux et donc va complètement transformer la presse en quelques mois, quoi. Donc c'est vraiment
c'est une news qui avait fait couler beaucoup d'encre, je crois.
Voilà, oui, il a fait couler beaucoup d'encre, le camarade Marinoni. La société qui fabriquait les rotatives s'appelait Marinoni, et en 1921, donc après la mort de Marinoni, qui était mort en 1904, il y avait toujours cette société Marinoni. Et donc, sur les rotatives qui continuaient d'arriver dans les journaux, ça c'est le site du musée de l'imprimerie qui nous le dit, il y avait toujours, bien sûr, cette marque Marinoni. En 1921, la société anonyme Marinoni fusionne avec un autre fournisseur de machines qui s'appelle Voirin et qui se trouvait à Montaterre dans l'Oise. Et là, on va retrouver à Montaterre dans l'Oise une société qui s'appelle Marinoni Voirin.
Ah oui, d'accord. Donc c'est la fusion des deux.
Voilà. Donc, à partir de cette période, donc à partir de 1921, si vous êtes acheteur d'une rotative, si vous commandez une rotative à votre femme pour Noël, elle va voir arriver une Marinoni Voirin.
Cela dit, vous vous êtes pas moqué d'elle à ce moment-là, parce que c'était le top du top.
Voilà,
rappelons
quand même qu'une rotative, donc qui imprime des journaux, c'est un truc qui doit peser 47 tonnes.
Voilà, enfin, c'est ça.
Voilà, c'est une machine.
Et qu'on stocke dans des hangars.
Et c'est peut-être 470 tonnes d'ailleurs. C'est
peut-être. Ouais.
Voilà. Bon. Et puis donc en 1963, c'est un groupe américain qui rachète Marinoni Voirin. En 1988, c'est un groupe allemand, Heidelberg Druckmaschinen AG, qui rachète Marinoni. Donc, vous voyez, quand même, on fait un sacré
voyage
tour d'Europe. Voilà. Et puis, donc, la dernière trace de Marinoni, la plus ancienne que j'ai trouvée sur Internet, c'est celle c'est une note dans un journal du graphisme, qui explique donc que, historiquement héritière des sociétés Creusot-Gosse à Nantes et Marinoni Harris Heidelberg à Montaterre, donc toujours cette usine de Montaterre, Gosse International France fabriquait sur ses sites de Nantes et Montaterre prestataires des rotatives d'imprimerie, notamment les Sunday bien connus. Il paraît que c'était voilà le nec plus ultra, c'était d'avoir une Sunday. Mais donc cette information que j'ai trouvée sur le net et qui date de 2013, bah nous apprend que lorsque cette société Goss International Europe est reprise, elle va abandonner la production de rotatives à Montataire et donc elle s'engage dans la production de ces fameuses rotatives, les Sunday, les héritières des Marinoni aux États-Unis. Et donc la production va être délocalisée aux États-Unis.
Donc la marque Marinoni n'existe plus.
Donc la marque Marinoni n'existe plus, mais en plus le site Marinoni n'existe plus. Voilà. Et, oui, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que vous imaginez. Je dis ça parce que Marinoni, c'est vraiment à l'époque de l'essor de la presse, c'est probablement l'équivalent de ce qu'est Google aujourd'hui.
Et oui, bien sûr. Ouais, oui. Alors peut-être que Google disparaîtra dans un siècle.
Ben peut-être. Hein.
Merci beaucoup Antoine. Cet atelier numérique est terminé. Merci d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. On sera là bien sûr le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous tous.